Autre radio, autre culture, bonsoir. Émission également diffusée sur 6e Paris Jazz et audiopeople.fr. Ce soir, nous abordons la musique de film avec, pour invité, Bernard Vistrette.
Bonsoir.
Bonsoir Bernard. La forme ?
Toujours.
Je vous souhaite une excellente année.
Merci, et à vos éditeurs aussi.
Oui, hein ? Tout à fait.
Vous l'avez fait peut-être déjà dans d'autres émissions. Enfin, moi, j'arrive la première fois au mois de janvier, voilà, avec le froid.
Mais enfin, ça sera douci. Nous attaquons ce soir la musique de film. Alors, vous êtes musicien flûtiste et vous êtes compositeur. Comment vous est venue l'idée de faire de la musique de film, de composer pour les films ?
Mais vous savez, ça n'arrive pas tout seul, hein, c'est une bonne chose. Bon, dans ma famille, 5 enfants, 5 musiciens, puisque mes parents étaient musiciens professionnels. Et peut-être que ça, bon, c'est sûr que ça vient d'eux, en tout cas s'il y a talent, ça vient d'eux. Ils nous ont donné les bons professeurs dans des bons conservatoires, et surtout on écoutait de la musique chez nous sans cesse. Mon père était violoniste, batteur, contrebassiste, il chantait le tango, il jouait aussi à l'orchestre symphonique du conservatoire de Roubaix. Ma mère était pianiste, elle a pris de Bruxelles de piano. Et ils se sont connus au cinéma muet à leur époque. Ils avaient 11 et 12 ans. Et je pense que ça vient d'eux, ça, inévitablement. Et ils se sont rencontrés là, déjà, évidemment, étant étudiants. Donc on a baigné là-dedans. Et tous les répertoires, c'est ça qui est diversifiant. C'est une culture, et pas simplement du conservatoire. J'écoutais tous les styles de musique chez moi. Ensuite, j'ai continué mes études en conservatoire de Paris. Et puis aussi, avant, à Versailles, avec Roger Bourdin, qui était un éminent flûtiste et pédagogue formidable. Et lui aussi, qui jouait tous les répertoires de la musique, aussi bien jazz, brésilienne. Et c'est des gens qui écrivaient aussi pour la musique, de films. Et ça, c'est intéressant parce que ce sont des pédagogues avec beaucoup plus d'ouverture que simplement le classique.
Alors, vous avez des prédécesseurs dans la musique de film, en tant que compositeur, excessivement célèbre, puisque le premier a été Satie, vous le saviez ?
Satie, oui, bien sûr.
Oui, Prokofiev.
Oui.
Camille Saint-Saëns.
Oui, Rachmaninov, etc.
Et bien d'autres encore,
Moussorski,
etc.
Moussorski aussi, quand Moussorski, tu vis vers leur fin, oui. Et après, il y a tous les Américains.
Autrefois, il y avait une idée, on pensait que les compositeurs de musique de film étaient en fait une sous-production de la musique, à tel point qu'il y avait certains compositeurs qui ne voulaient pas apparaître dans les génériques ou alors qui prenaient un pseudonyme. Oui, oui. Vous avez connu cela ?
Non, mais je sais que ça existe, mais maintenant c'est un art à part entière quand même. Vous savez souvent, selon la mélodie et l'orchestration, et selon aussi les moyens financiers pour réaliser la musique, c'est-à-dire quand vous êtes un grand orchestre symphonique et des chœurs, effectivement, il y a une autre ampleur. C'est toutes les productions américaines. Et ils mettent le paquet, comme on dit dans notre jargon. Oui. On ne fait pas de musique de film avec 3 musiciens. Par contre, ça fonctionne aussi avec 3 bons musiciens. Mais alors, c'est un autre climat. C'est une musique intimiste et qui fait mouche. Mais ça, c'est le talent du compositeur. Et aussi de leur interprète. Parce que vous savez, en tant qu'interprète, vous participez un peu à la création quand même d'une musique. Il ne suffit pas de dire la musique simplement. Il faut vraiment y mettre du sien. Et quand on a du talent, les meilleurs interprètes sont pris par les meilleurs compositeurs.
Alors, qu'est-ce qui vous attire justement dans cette musique du film ?
Ah ben alors, je vais retourner encore un petit peu quand j'étais petit garçon.
Oui.
Hein, parce que ça, c'est terrible. J'espère le redevenir un jour. On allait au cinéma aussi avec mes parents. Et moi, je chantais en sortant toutes les ambiances que j'avais entendues. Évidemment, pas exactement, mais je faisais ta 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 ta, etc. Pas les scènes d'amour, non. J'étais trop petit pour vraiment m'y mettre dedans. Mais tout ce qui était aventure, et j'arrêtais pas de chanter à tel point que ma mère a dit « Bon, fais plutôt ton solfège et travaille tes gammes, parce que ça va, les ta 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 ta. » J'étais fou de ça. Je dis un jour, je serai chef d'orchestre et pas tout à fait compositeur. Mais avec la flûte, qui était mon premier instrument, après j'ai fait la percussion, les claviers, donc je m'y suis mis un peu plus sérieusement. Et c'est mon rêve.
Vous avez fait combien de musiques de films ?
Bon, je ne sais pas, une dizaine à peu près, peut-être. Mais aussi, parallèlement, j'ai fait des musiques de ballet, beaucoup. Parce que ça, j'adore ça aussi. Et puis les danseurs, quand ils peuvent danser avec la musique vivante, plutôt qu'une bande, c'est quand même beaucoup mieux. Mais tout est question de budget. Et aussi, j'ai eu la chance après de travailler pendant 5 ans à la Comédie Française. J'étais assistant au directeur de la musique. Et là, je faisais les orchestrations beaucoup, parce que les comédiens, surtout à la Comédie Française, quand ils ont le temps et les moyens d'apprendre à chanter, ils aiment ça aussi. Et je faisais les orchestrations. Et j'ai composé aussi des indicatifs pour eux. C'est une somme fabuleuse de travailler la musique pour le théâtre. et pas que pour le cinéma.
Il y a une grosse différence entre les deux ?
Oui, il y a une grosse différence. Souvent, on demande aux compositeurs pour un théâtre de combler les bruits de décors. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de lumière, mais dans certains théâtres encore classiques, il y a beaucoup de décors qui changent, les tableaux. Et pendant ce temps, on demande de faire une minute ou deux minutes de musique pour combler le bruit que ça faisait à l'époque.
Mais en fait, on revient un peu à ce qui était au cinéma d'autrefois, où on mettait la musique en fait, pour combler les bruits, soit du projecteur ou des gens dans la salle.
Oui, mais vous dites autrefois, pour le cinéma muet ?
Oui.
Oui, enfin, non, mais sauf que il fallait de la musique... les scènes d'amour, c'était le violon qui faisait pleurer, ça n'arrêtait pas. C'était un boulot formidable pour ces interprètes de la musique. Ils tournaient des pages sans cesse et interprétaient pendant je ne sais pas combien de temps ça durait le film, même pour les petits les courts-métrages. Alors ce n'était pas tout à fait pour camoufler l'éclairage, c'était pour donner vraiment le sentiment au cinéma, puisqu'il n'y avait pas les paroles.
Alors j'ai rencontré par internet un garçon qui a un audioblog qui s'appelle Timothy Joly. Et Timothy Joly est pianiste et il joue, il a une espèce de troupe qui je crois qui s'appelle la Cordonnerie. Et eux font à l'ancienne, c'est-à-dire ils passent des films muets et ils jouent dessus.
Ils ont écrit la musique ou certains l'improvisent, oui. Évidemment. Ah, c'est fabuleux, c'est intéressant. Et encore faut-il d'avoir la place pour... Et puis... Ça dépend de la formation que vous avez. Enfin, je suppose qu'ils sont 3 ou 4.
Je ne sais pas comment ça marche. Bon. Parce que moi, j'attends justement que Timothy Joly vienne ici.
Il vient, il vous le dira mieux que moi, évidemment.
Mais pour dire qu'il y a encore il y a un renouveau.
Il y a renouveau, c'est vrai. Oui.
Ce type de musique.
À Paris aussi, il y a 2-3 salles qui projettent et avec un budget conséquent et prennent parfois un orchestre de chambre.
Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans les films ? Enfin, je veux dire, vous avez un... Pas un parti pris,
non,
mais
aucun.
Vous aimez plus particulièrement certains films pour les musiques ?
Oui, mais j'aime d'abord surtout leur musique avant le film. Vous savez que j'écoute ou je regarde à la télévision ou au cinéma un film. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord le générique de fin, savoir qui a composé la musique, qui l'interprète. C'est une maladie pour moi. C'est ce qui m'intéresse. Et la musique qui crée toujours cette ambiance avant le texte. Par contre, en amont, quand on me demande de faire une musique pour tel film, je demande le scénario. Et à partir de là, je m'imprègne de ça. Et ça, là, je commence à rêver. Le petit garçon, il fait ta-ta-ta-ta sur la scène et puis il écrit. Par contre, maintenant, je les écris et je les maquette. Et après, on va en studio quand on est d'accord avec le réalisateur et le producteur et on enregistre ces musiques. Mais c'est surtout le scénario qui m'intéresse.
Vous voyez jamais les rushs ?
Non.
Non.
Non, j'ai jamais eu l'occasion.
Ça vous manque pas ou vous vous dites pas après en voyant le film tiens j'aurais finalement en voyant ces images là j'aurais préféré faire composer autre chose.
Non mais quand j'écris la musique sur les images on me donne le film fini.
Ah oui voilà c'est ça.
On me le donne mais fini. Donc c'est comme une symphonie. J'ai dit bon c'est de A jusqu'à Z et j'écris et je continue et je ne prends pas un bout qui est à la fin ou au milieu. J'écris déjà le générique quand j'ai eu le scénario. Avant que la première image soit tournée. Parce que c'est ça qui me donne le soutien pour tout le film. Je prends un thème principal ou parfois 3 ou 4 thèmes principaux, selon les scènes. Et après, je les adapte sur les images que l'on me donne. Donc, tout est chronométré. Et là, il m'arrive pour des versions que je fais sur un paragraphe, je fais 3 versions différentes. Et là, après, je dis laquelle choisir. Alors, souvent, avec le réalisateur, je lui dis tu peux choisir ça. Là, ce n'est pas les idées qui manquent. C'est peut-être trop d'idées, d'ailleurs.
Juste une question comme ça. Vous avez une musique préférée de film, de grands films ? Quelque chose qui vous a vraiment impressionné ?
Non. Je les aime toutes. C'est grave, hein ? Mais c'est... Non, tout m'intéresse. Et vous savez, je parlais tout à l'heure, j'ai fait les études classiques. Bon, parallèlement, je travaillais aussi bien avec mes parents. Ils nous faisaient jouer toutes les musiques. Et puis dans le Nord, puisque c'est là où je suis né, on faisait toutes les harmonies, toutes les clubs symphoniques. Et après, avec mes frères qui étaient plus âgés, ils avaient aussi leur groupe. Et ils faisaient du jazz. Après, on a fait la musique dite typique, toute la musique sud-américaine. Donc, et puis... conservatoire, j'ai fait beaucoup de musique contemporaine. Et il faut dire aussi que j'ai la chance d'avoir des instruments fabuleux. Je suis flûtiste, mais je joue toutes les flûtes. Aussi bien du piccolo, flûte normale, flûte alto, flûte basse et une flûte octobasse qu'un facteur français a conçu il y a une dizaine d'années. C'est un instrument fabuleux et qui donne des ambiances terribles dans la musique de film. D'ailleurs, je vous parlerai de certains films. Là, tout un... Pour les auditeurs, ce serait bien qu'ils se le procurent. Et il y a des ambiances terribles de cette flûte. Il y en a trois ou quatre au monde. Et je suis un des seuls fous à la jouer, vraiment, et dans tous les styles. Donc, pour vous dire que j'aime tous les styles, quand j'écoute une musique qui est bien faite, je dis, pour moi, c'est la meilleure. Et après, je vais écouter un autre film avec une autre musique, ce sera encore meilleur. Il n'y a pas de Dieu là-dedans, dans les compositeurs.
Est-ce que vous pensez que la musique de film a un effet simulateur et stimulateur sur les films?
Oui, pour le public.
Pour le public,
bien
oui.
Sûr. Eh bien alors, là vous savez, dans ma société d'artistes interprètes de la musique, il y a 5-6 ans, on a fait faire un sondage fait par un institut de sondage très sérieux. Hein, et on demandait, vous ressentez quoi dans la musique s'il n'y avait pas de musique dans un film? Les réponses étaient effarantes, c'est-à-dire que les gens allaient au cinéma pour écouter beaucoup la musique, bien qu'ils soient attirés par l'affiche ou l'acteur ou le scénario. Mais dans les réponses, quand on grattait un petit peu, il y avait à peu près 67% de positifs en disant qu'il faut de la musique avant tout. On pensait que la moitié des spectateurs ils se fichaient un peu de la musique. Non, c'était à 67% qui disaient surtout il faut beaucoup de musique. Et le reste était partie prenante quand même. Mais les 67% trouvaient que c'était l'essentiel du film.
Ça paraît pas étonnant quand on voit par exemple le succès énorme qu'avait eu Le Grand Bleu et la bande musicale du Grand Bleu,
oui, oui.
Par Yves Sierra, oui. Qui avait été composée par Yves Sierra.
Bien sûr.
On parle aussi, là, cette semaine, il va y avoir un film qui passe sur la télévision qui est India Song qui est le film de Marguerite Duras, où la musique est finalement tout le temps là. Pratiquement, et avec des voix off.
Et toujours présente, oui.
Et la musique est toujours présente. Mmh. Et en fait, ce film a eu un impact terrible chez les gens, dans la tête des gens, parce que la musique était là. Et bon, il y a plein d'autres films.
Mais il y a eu un exemple aussi, il y a 2 ou 3 ans, Patrice Lecomte, pour qui j'ai travaillé aussi dans 4 films, il a demandé à un compositeur de lui écrire une musique, comme ça, pendant 1 heure, et lui, il en a fait un film, d'après la musique. Il a écrit un scénario et il a réalisé un film. Donc, vous voyez que c'est important pour les grands cinéastes aussi. Ils sont très sensibles. Alors, par contre, Patrice Lecomte aussi a beaucoup d'idées aussi. Quand il a réalisé son film, il donne des conseils au compositeur en disant « J'aimerais bien que tu fasses cette scène-là, tu vois, écoute le deuxième mouvement de tel quatuor, de tel compositeur. Ce serait bien que tu m'écrives quelque chose dans cette formule. » Donc, il est très, très à cheval là-dessus aussi. Il sait ce qu'il veut. Mais il a fait aussi l'inverse. Il a écrit un film sur une musique.
Quand vous commencez à composer, est-ce que vous avez déjà idée dans votre tête, en regardant le film ou en lisant le scénario, si vous allez avoir un orchestre de chambre ou alors carrément un orchestre symphonique ou un orchestre numérique?
Ah oui, numérique avec les synthétiseurs.
Ouais,
oui,
avec les synthétiseurs.
Mais la musique, elle est la même. On l'écrive, si elle soit jouée par un clavier qui joue très bien les synthétiseurs, il peut aussi faire des très belles choses. L'essence même, c'est la composition, évidemment. Vous savez, le rêve d'un compositeur, si c'est pour la musique des films, c'est toujours de dire ben, « je voudrais quand même un philharmonique complet, et puis les chœurs, 200 chœurs, etc. » Pourquoi pas, hein? C'est rare qu'on ait ces moyens, en tout cas en France et même en Europe. Mais non, je pense que moi, quand j'écris, j'ai envie d'avoir une masse orchestrale par moment, et subitement un solo ou un souffle d'un instrument, et de temps en temps une petite formation. J'ai pas envie toujours de la grosse masse orchestrale. Donc, je me laisse une liberté d'alléger la composition.
Alors, comment vous travaillez la synchronisation avec les images et la musique? Est-ce que c'est vous qui le faites ou vous laissez faire le réalisateur?
Ah non, 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 c'est moi. Mm-hmm. Bon, maintenant, on a des moyens modernes avec la vidéo, des logiciels formidables. On peut écrire au dixième de seconde près. Et donc, je cale tout sur les images. Après, le réalisateur, si ça ne lui plaît pas, ou s'il en trouve qu'il y en a trop, ou s'il n'y en a pas assez, il revient vers moi et dit « là, ce n'est pas suffisant, ou il y en a trop ». Alors, comme je vous dis, j'ai toujours 1 ou 2 ou 3 versions sur les scènes. L'important, c'est que moi, je demande en tout cas au réalisateur, je dis « bon, tu veux de la musique où ?» Il me dit « à partir de là, telle seconde, 1 minute ». Et moi, je lui propose aussi ce que je pense. Je dis « ben, je te propose ça et ça ». Donc, on se met d'accord tout de suite. Et puis, la plupart du temps, il y a beaucoup de musique. Le dernier en date, Les Cadets de Guyenne. Et là, on m'a demandé de faire une musique assez longue. Et j'ai dit, bon, oui, on veut comme une symphonie. Alors bon, Gilles Réalisateur, je veux bien, mais ça fait comme à beaucoup de musique. Et il a réussi quelque chose de fabuleux, s'il a fait un générique assez long. Et le générique, il est fait comme un concert. C'est-à-dire qu'il offre un concert de tous les thèmes que j'ai écrits et enregistrés avec un orchestre symphonique, avec des chœurs. Je parlais de Patrice Lecomte, que lui, il fait une musique, enfin un film sur une musique, et d'autres prennent la musique et ils en font un concert à la fin pendant le générique. Je crois que c'est original, non ?
Oui, c'est très original, ouais, et exceptionnel. Justement, quand vous regardez un film dont vous devez faire la musique, est-ce que vous vous inspirez également sur la tonalité qu'il y a dans le son du film ? Je veux dire, sur la tonalité des voix des personnages ?
Ah oui, sur le jeu des acteurs, oui, évidemment.
Les bruits, par exemple, des choses comme ça. Est-ce
évidemment,
que vous vous inspirez?
Mais les bruits, vous savez, un musicien n'aime pas trop qu'il y ait trop de bruit sur sa musique. Enfin, moi,
oui,
ça me gênerait. Mais après, c'est pour ça qu'il y a un compromis à faire. Mais ça ne fait rien. Il suffit d'avoir un bon ingénieur du son et qui dose la musique, plus ou moins, pour laisser ces bruits importants qui nous dominent aussi, et puis sur un regard de l'acteur ou une attitude. Je joue beaucoup aussi là-dessus. C'est important. Je crois que c'est pour ça que c'est vraiment un film comporte trois parties importantes. C'est vrai qu'il y a le scénario, les acteurs avec le réalisateur et la musique. Les trois choses primordiales. Et si c'est pas bien réuni, le film n'est pas toujours bien réussi.
Alors justement, vous parliez des cadets de Guyenne tout à l'heure. Il y a une scène très particulière où l'on voit arriver, c'est Catherine de Médicis. Et là, vous avez, il y a une grosse rythmique qui arrive dessus, très importante. Et,
oui, toutes les percussions et les cuivres.
Oui. Extraordinaire, d'ailleurs.
Bah oui, mais parce que, bon, c'était pas non plus une scène gay, hein, vous avez vu, c'est quand même là. Et puis le texte dessus, c'est quand même grave. Et ça, c'est des climats terribles, pesants et lourds. Et ça, et vous savez, on se régale, hein, un compositeur de musique de film, mais vraiment, c'est passionnant. Parce que deux secondes après, c'est autre chose, hein, carrément. Il faut jongler avec ça, avec les sonorités.
Est-ce que vous arrivez à vous renouveler ou alors il y a toujours un...
Ben, j'espère.
Ou alors, inconsciemment, on s'inspire de choses que l'on a étudiées autrefois ou que l'on a jouées autrefois.
Ben, je pense que dans une culture musicale, quand elle est complète, effectivement, je suis sûr que de temps en temps, j'ai des petits bouts d'un musicien classique... d'un grand, peut-être un bout de Mozart qui me revient inconsciemment, mais ça, je l'évite. Et après, quand je les réécoute, j'espère que ce n'est pas une mesure d'une étude que j'ai travaillée pendant à la flûte. Mais c'est sûr que chaque compositeur est influencé par les grands maîtres ou d'autres contemporains. C'est inévitable. Mais vous savez que, bon, en tout cas, dans la chanson de variété, souvent on demande aux compositeurs de chansons de faire comme le tube précédent. On demande presque du plagiat, sans faire vraiment du plagiat. C'est pas le propos de la musique de film. C'est vrai que des réalisateurs demandent à certains compositeurs, il faudrait que tu fasses une musique dans le style de ce grand tube ou ce film qui est sorti il y a pas longtemps. Et on leur demande. C'est presque des commandes et ils doivent s'exécuter s'ils veulent travailler. De faire vraiment comme la musique de tel film.
Le fait, par exemple, d'avoir, toujours en regardant les cadets de Guyenne, le fait d'avoir la musique dans la tête après avoir vu le film pendant 10 jours ou 15 jours, c'est une réussite pour vous ?
Ah oui, oui. Ouais. Donc ça, c'est important aussi pour un compositeur de faire des thèmes, disons, grand public. Pas commerciaux, mais grand public. C'est-à-dire qui arrivent de suite. Et je pense que pour un spectateur, avec l'image en même temps, c'est plus facile à retenir une musique, parce qu'il verra toujours cette scène ou cette action d'aventure ou d'amour. Et ça leur reste un peu plus gravé.
Il est évident quand on chante...
Vous gardez l'image sur la musique. Hein.
Exactement. Quand on chante une chanson de MASH, du film MASH, par exemple,
ben vous voyez tout
on
suite
a tout
les scènes,
suite, hein. On a tout de suite les scènes. Ça, c'est
et
vrai.
Ça, c'est important. Ben, je pense que... Et c'est le travail d'un compositeur aussi. De penser au spectateur.
Alors, qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette idée qu'on avait dans les années 40, qu'une bonne musique de film doit être discrète et invisible ?
J'étais pas né, moi, en 40. Je peux pas vous répondre. non, mais... oui, ben... C'est peut-être parce qu'il y a eu trop de musique bien avant, avec le cinéma muet. Il n'y avait que de la musique, évidemment, pour faire vivre ce film. Ou les pancartes qu'on mettait et qu'on affichait. Donc, peut-être qu'il fallait un peu de sobriété. On trouvait qu'il fallait être... plus calme, Mais on est vite revenu à ça. Hein. Maintenant, la musique est une part entière de musique.
Pourtant, il me semble que dans la nouvelle vague des années 60, avec Jean Godard, il n'y avait pas de musique de film.
Godard, c'est un des premiers qui a fait travailler des quatuors à cordes. C'était quand même plus calme comme musique. Mmh. Mais bon, la nouvelle vague aussi, il y avait des textes, c'était vraiment autre chose. Mais enfin, ils sont vite revenus hein, avec la musique.
Actuellement, est-ce que vous trouvez que la musique de film est considérée comme un art majeur? Ou alors ça a tendance à se dévaloriser?
Non, je ne pense pas que ça se dévalorise. En tout cas, le public est avide de cette musique. Et vous savez, beaucoup de producteurs aimeraient bien avoir les moyens, enfin plus amples, pour pouvoir avoir un budget musique conséquent. Mais bon, les productions, ça vient en dernier, hein, le budget musique.
Oui, c'est ça.
Ça, vient ça c'est mis en dernier. Hein, donc, et ça représente, par rapport au film, au budget d'un film, je crois que ça doit faire 2 ou 3%.
Je vais parler d'un petit peu plus politique, une question un peu plus politique. Qu'est-ce que vous pensez de ces films qui ont des subventions pour la musique, des subventions françaises pour la musique, et qui vont enregistrer dans les pays étrangers, comme dans les pays de l'Est?
Oui, bah, écoutez, c'est longtemps que ça dure. Hein, ça...
C'est longtemps que ça dure.
Oui, et c'est un scandale. C'est pas normal. Et à ce moment-là, ces films, pourquoi ça se passe en France, quand c'est tourné en France, c'est honteux.
Alors j'avais entendu beaucoup de musiciens qui disaient, à partir du moment où ils ont des subventions françaises, et non pas des subventions européennes, mais des subventions françaises pour faire la musique de film, il faut qu'ils travaillent avec les musiciens français.
Enfin, je ne pense pas qu'il y ait des subventions pour la musique d'un film. Les films sont subventionnés. France, évidemment, mais ça, c'est une bonne chose, je pense. Mais pour la globalité du film. Mais il n'y a aucune subvention qui est destinée pour la musique. C'est pour le film complet. Et c'est à la production de dire, bon, ben, et le réalisateur qui exige telle musique ou tel compositeur avec une masse salariale adéquate. Alors, il y a quelques sociétés civiles d'artistes maintenant qui donne des subventions, évidemment, pour une commande musicale, mais ça reste encore à toute petite échelle. Mais, par contre, il y a des critères d'attribution pour que ça se passe en France, évidemment. Puisque ces sociétés civiles, vous savez, elles sont un peu... Je ne sais pas si vous connaissez, mais elles sont générées par des droits voisins et qui sont acquis par toutes les diffusions, rediffusions des artistes de la musique.
Est-ce que vous trouvez ça normal qu'à chaque fois, qu'un CD puisse sortir d'une musique de film?
Ah ben, de toute façon, actuellement, tous les films qui sortent, la vidéo sort en même temps, pratiquement. Oui. Et puis, il y a toujours la bande originale qui est sur le disque.
Parce qu'il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble, par exemple, pour le dernier film des Ch'tis, que la BD n'est pas sortie en disque.
Écoutez, ça, je ne sais pas, mais je sais que la vidéo est déjà prête sur le marché.
Oui, tout à fait. Bon. Oui, elle est déjà en vente.
Oui, mais ça, c'est une question de goût artistique. Si le réalisateur ou la production trouve que la musique n'est pas suffisante à elle-même, bien qu'elle est très belle, j'ai écouté et vu le film, très bien faite, c'est une musique intelligemment construite sur cette comédie. Mais moi, je crois que c'est une bonne chose, surtout en général, que les gens écoutent que la musique d'un film, parce que c'est une musique à part entière, et souvent c'est des petites symphonies réalisées, c'est très beau.
Est-ce que par rapport à vos connaissances musicales, le fait d'écrire de la musique de film vous a obligé à revoir votre manière de composer la musique?
Non, je ne pense pas. Mais avant de composer pour l'image, je composais déjà pour les concerts, aussi bien la musique brésilienne, pas tout à fait classique. Effectivement, j'écrivais pas de suite, j'en joue beaucoup, je suis interprète, donc je joue toutes les musiques dites classiques, baroques et contemporaines, mais j'écrivais surtout de la musique brésilienne pour mes groupes de jazz ou des arrangements. Et c'est quand on a les possibilités d'écrire pour un orchestre, on y va forcément. Au fur et à mesure, on fait des progrès, enfin moi j'espère en faire, et j'ai pas fini. C'est les circonstances qui nous font évoluer en même temps.
Vous avez un type de film que vous préférez? Un film romantique, de cap et d'épée, prise de tête,
non,
politique?
Non, non, non. Quand il y a un texte qui est bien dit et bien joué, c'est tellement un régal. Évidemment, quand j'étais à la Comédie Française, on ne peut pas faire que des films qu'avec eux, mais déjà, c'est formidable. Non, non, je n'ai pas... Bon, je n'ai pas encore écrit pour un western, par exemple. Mais ça ne me tente pas, mais vous savez, pourquoi pas?
Un western en Périgord à la chasse des truffes.
Ah, ben pourquoi pas? Oui, tous les jours à table après, hein, après le tournage.
Alors on parlait tout à l'heure, on disait que la musique arrive souvent en bout de chaîne, que tout est joué, tout est mis en boîte, et la musique de film arrive un petit peu par là-dessus. Mmh. Vous arrivez à avoir des mauvaises surprises au moment des mixages ?
Au mixage, il faut être vigilant parce qu'il faut qu'on respecte quand même l'ambiance qui a été écrite et interprétée. Il y a eu parfois des mésaventures, c'est au montage, mais pas au mixage. Les monteurs ou les monteuses, ça coupe sévèrement et ça, mais c'est un problème avec le réalisateur. On a une musique qui est même vraiment coupée, on lui a coupé les ailes et là c'est un peu dur et c'est fini, il n'y a pas rien à faire. Puisque c'était fait avec le réalisateur, qui s'est peut-être battu pour pas qu'elle soit coupée. Le montage a une part très importante. Hein. Et ça, oui, ça m'est arrivé.
On ne se dit pas, dans ces cas-là, on m'y reprendra plus ?
On dit ça. On dit, je voudrais assister au prochain et au montage. Et là, on vous dit non. C'est un peu la vie, hein. Vous savez, dans chaque métier, il y a quand même des choses où il faut accepter. Mais ce n'est pas grave, ça, ce n'est pas grave du tout. Je préfère qu'on coupe un petit bout de la musique, brutalement, enfin, qui me paraît, moi, anti-musical, ce geste, plutôt que de dire, il y a 1000 euros pour écrire la musique et les 3 musiciens et les studios. Ça, non.
Oui,
voilà, hein, vous voyez.
Autre radio, autre culture, deuxième partie sur la musique de film avec la participation de Bernard Vistret et d'Alex Bonavita qui est arrivé de manière impromptue. Bonsoir Alex.
Oui, bonsoir.
Donc on va continuer à parler de cette musique de film qui fait partie de votre vie et qui voit sortir sous peu donc un film qui s'appelle Les Cadets de Guyenne dont vous avez fait la musique. Alors, comment vous faites une journée d'enregistrement pour une musique de film ? Comment ça se passe en règle générale ? Est-ce que tout le monde regarde l'écran ? Comment ça se passe ?
Ah oui, avant on regardait encore l'écran et les musiciens aussi. Et puis maintenant, le compositeur est au pupitre. Et c'est lui le seul qui a l'écran, un écran vidéo. Mais tout était fait en amont au travail. Hein. Je vous avais déjà dit que je compose sur l'ordinateur, le matériel, au 10e seconde près. Après, on est d'accord avec le réalisateur. Donc, on va en studio, les musiciens ou la partition, et on travaille avec le casque. Et on a les clics qui nous donnent les tempi adéquats. Donc, comme ça, on est vraiment calé sur ce que j'ai écrit d'après l'image. Bon, c'est tout simple. Bon, les musiciens de studio, vous savez, ils ont beaucoup de talent. Ils sont habitués à travailler avec le casque et tout le monde s'entend très bien comme ça. Et donc, c'est efficace comme travail. On est dans le studio. Bon, pour le film que vous venez de citer, Les Cadets de Guyenne, on a mis à peu près 6 jours d'enregistrement, puisqu'après, il y avait les chœurs. Et puis, les solistes sont venus parfois après. En faire du heureux, ils ont chanté sur le playback, notamment les chorales, puisqu'ils ne pouvaient pas être en même temps que l'orchestre, puisqu'il était assez conséquent. Sinon, il fallait des immenses studios. Alors, donc, on a fait ça à plusieurs étapes. Et ça se passe souvent comme ça pour tous les autres films.
Mais quand vous enregistrez, par exemple, de la musique pour les films de Patrice Lecomte, ça se passe de la même manière ?
Oui, c'est exactement. Là, mais on avait des plus grands studios aussi, puis l'orchestre était plus conséquent. Hein. En tout cas, les 4 films que j'ai fait avec Patrice, c'était « Le parfum d'Yvonne »,« La veuve de Saint-Pierre », L'homme du train et puis Confidence trop intime. Et là, on est dans des immenses studios, parce qu'après, chaque fois, l'orchestre pouvait augmenter, on était jusqu'à 60 musiciens. Et là, on a fait tout en direct.
Vous avez toujours votre petit moniteur et,
oui.
Et vous dirigez les,
oui, oui.
Les musiciens.
Oh, mais je peux regarder 2 choses en même temps, vous savez. Hein, non, même plus, hein, ma partition, l'écran et tous les musiciens. Non, et, ça, et ce qui est bien, c'est que Patrice Lecomte est là dans toutes les séances, il écoute. C'est lui le premier auditeur. Et après, on lui demande un peu ce qu'il en pense quand même. Il donne une petite indication, souvent, pour une intention. Pas dire comment il faut jouer, mais il explique un peu la scène. Je crois que c'est important. Comme c'est un poète, c'est très bien dit. Vous voyez ? Ça, c'est important quand le réalisateur est là avec nous, jusqu'au bout.
N'importe quel studio peut enregistrer de la musique de film ou alors il faut vraiment des studios particuliers ?
Non, je pense que maintenant, les techniciens et les preneurs de son... à part tout ce qui est musique électronique, qui est quand même un monde à part, ils savent enregistrer. Mais la plupart du temps, on a toujours le même preneur de son qui vient. Et il vient d'un studio à l'autre. Et c'est lui qu'on connaît bien et qui connaît aussi l'orchestrateur et le chef d'orchestre. En principe, toujours le même musicien qui vient avec l'orchestrateur, le compositeur, quand on est plusieurs. Donc, c'est une équipe. Hein, le preneur du son vient avec nous.
Vous pouvez nous donner une idée de somme allouée pour la musique de film, à peu près ?
Ah bien, comme vous dites, de 1 000 euros, comme les pauvres qui se sont fait escroquer, jusqu'à, je ne sais pas, peut-être 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000. Maintenant, les grandes productions ont un superviseur musical qui, lui, gère toute l'enveloppe. Comme en Amérique, ça se fait comme ça. C'est une grande production à 100 000 ou 200 000 euros pour l'enregistrement simplement. Les studios, c'est géré et ça se négocie. Enfin, il y a des tarifs en vigueur. Donc, nous, on veille que tous les tarifs des musiciens, de chaque artiste, soient respectés. De la composition aussi, du chef d'orchestre, tout était bien régenté.
Est-ce que l'on voit se profiler à l'horizon des espèces de castes comme il existe en ingénieur du son pour le cinéma ou des éclairagistes exprès pour le cinéma, qui sont des corporations d'ailleurs? Est-ce qu'on voit se profiler ce même type de corporatisme au niveau des musiciens de films?
Non, je ne pense pas. Hein. Peut-être Alex a une idée aussi là-dessus, mais le musicien digne de ce nom qui s'est enregistré, il peut jouer en lecture à vue toutes les musiques qu'on lui demande en studio, ou simplement improviser. Parfois, on demande à un type, tu viens, tu vois, il regarde la scène, on lui montre en vidéo, voilà, il faudrait que tu ne fasses telle ambiance dans tel style, et à ce moment-là, il improvise. Ça arrive aussi, et le compositeur ne donne qu'une indication de style, mais il n'a pas forcément écrit, ce ne serait pas efficace si l'interprète peut... Dis-moi de ce que tu en penses, tu en as fait beaucoup, on te demandait d'improviser par exemple.
J'en ai fait à l'époque où ça se faisait, puisque d'après les questions qu'on te posait, ça se faisait évidemment dans le grand studio,
bien sûr, chez Davout,
la plupart, oui, avec Georges Delerue, oui, pour Truffaut, avec Michel Legrand... etc. Et on était quoi, 47, 50 au moins. Au moins. Oui, ça ne fait pas mal, oui. Beaucoup.
Je sais que pour moi, par exemple, tu avais demandé, une fois je t'ai demandé pour une musique brésilienne, j'avais écrit le thème, ça s'appelait Climat, et j'ai dit à Alex, écoute, je te peux écrire la rythmique et tout, même les harmonies, tu as la mélodie, je te le joue à la flûte, et il m'a accompagné comme ça, et on l'a fait d'après l'image. C'était une première réaction. Et souvent, le premier jet, on l'a gardé comme ça.
Oui, c'est souvent le mieux. Oui. Le premier jet, c'est souvent...
Dans ces cas-là...
C'est souvent ce qu'il y a de mieux. Après, on essaie d'améliorer et il y a toujours un truc de moins, en fait. Quand on improvise,
mais c'est pas difficile d'improviser comme ça, à deux, en regardant un film
Non.
Mais vous savez, au temps du cinéma muet, moitié était improvisée, je crois.
Non, il faut que le musicien soit improvisateur. Vous ne pouvez pas demander, forcément, hein, certains musiciens de l'opéra ou de l'orchestre national, ils font que leur musique classique, très bien, vous ne pouvez pas demander d'improviser. D'abord, ils ne viendront pas, ils disent non, ce n'est pas ma tasse de thé. Quoi. Non, il faut prendre des musiciens qui sont habitués à improviser déjà, qu'il y ait un film ou une image ou pas. C'est le but de l'orchestrateur sortant et pas tout le temps le compositeur. Parce que souvent, dans la musique de film, on travaille, il y a le compositeur, qui a fait ses thèmes au piano ou même une orchestration, et il demande au chef d'orchestre qui est arrangeur et de lui composer l'orchestre pour lequel il sait qu'il va prendre les meilleurs pour la musique qu'on lui demande d'enregistrer. C'est une collaboration double. Il y a souvent un compositeur et l'arrangeur orchestrateur à côté.
Vous avez travaillé avec Egberto Gismonti?
Oui, oh oui, beaucoup.
En musique de film?
Oui, et notamment au Brésil. Parce que bon, ce grand Brésilien, il est partout dans le monde, et on a fait beaucoup de musique aussi, de ballet, pour les Brésiliens, et ça c'est des ambiances formidables, parce qu'il y a toutes les percussions en même temps, alors que lui est rigoureux dans sa musique, tout est écrit, et subitement il y a une session ouverte, et les percussions partent, et on improvise là-dessus. Pour l'enregistrement, par exemple, des ballets, ça se fait dans une grande salle, tout le matériel arrive, et les danseurs dansent. Puisque nous, on joue en même temps. Alors le mixage, c'est un boulot terrible de mixage. Et on enregistrait l'orchestre derrière des grands paravents de plexiglas pour entendre les bruits des danseurs, mais qu'ils étaient pieds nus dans ce ballet. Et là, on enregistrait, et eux, ils dansaient. Il y a une stimulation formidable. Mais en France, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Alors c'est des moments formidables.
Il n'y a pas de possibilité pour créer ce genre de situation en France.
Il n'y a pas de budget pour ça, déjà. Oui, je me répète, mais c'est malheureux. Il n'y a pas de budget. Pour... Et puis, alors, un producteur dit « Oh non, on ne va pas enregistrer en même temps pour un ballet. » Et souvent, les chorégraphes travaillent sur une musique qui est écrite. Moi, j'avais fait pas mal aussi de musique, notamment pour Fanny Gaïda, qui était étoile à l'opéra, et puis quelques compagnies comme Gigi Cassulianou. Lui, il me demandait d'écrire des musiques d'après des maquettes que je lui avais données. Et lui, il choisissait. Après, il disait, bon, il faut faire attention au tempo, parce que là, c'est un peu vite, c'est un peu lent, il faut ralentir. Et puis, il laisse aussi comme un peu de respiration, comme quand vous écrivez une musique pour un pas de deux, les deux danseurs ne peuvent pas toujours... sans arrêt danser, il faut qu'il respire aussi. Donc c'est à nous de concevoir cette musique, des moments d'intensité, pour équilibrer leur passage un peu plus calme dans la danse. Et ça aussi, la musique de danse, c'est ballet, c'est important. Et quand on peut jouer en même temps notre musique, en même temps que les danseurs, ça c'est la double récompense pour tout le monde, hein. Mais là aussi, souvent on leur fait la bande, on leur enregistre la bande, mais elle est en studio. Et après, eux, le danseur s'adapte à ça, au tempo enregistré, avec les indications du chorégraphe, évidemment.
Est-ce que cela arrive à la première d'un film qu'on puisse se demander qu'on joue en direct la musique du film? Ça vous est déjà arrivé?
Oui, alors à Lille, mais quand j'étais petit, j'étais une quinzaine d'années, on l'avait fait avec mon père, justement, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une musique pour... c'était O'Brady, c'était un acteur de l'époque. Et ça se passait dans un cabaret de Lille. Et où mon père faisait aussi la musique de cabaret. Et après, on était en studio, dans les studios de Radio Lille à ce moment-là. Et on enregistrait toute cette musique. Alors qu'elle était souvent de musique d'ambiance de cabaret. Mais il y avait un thème qui était bucolique et en même temps, une scène de plein air. Moi, j'avais fait l'interprète à la flûte, tout jeune et tout fier. Et par contre, quand ils ont fait la première à Lille, la production avait fait dans un grand cinéma, puisqu'il y avait encore les grands cinémas avant, et ils ont demandé de venir jouer, le groupe qui a joué pour tout le film, en direct. Mais moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de refaire. Mais alors, bon, on aimerait.
Mais ça serait extraordinaire. Ouais. Parce que là, une première, en général, c'est pour lancer un... un film, mais c'est bien aussi quand la musique a été très travaillée, de la présenter.
Oui, mais je pense que les réalisateurs aussi, ils veulent montrer le travail terminé de A jusqu'à Z.
Il y a une autre catégorie de personnes qui aimeraient bien qu'on les prenne un petit peu pour des musiciens. Ce sont les bruiteurs.
Ah.
Qui estiment qu'ils aimeraient bien, par exemple, que quand ils créent des bruits, des bruits très particuliers, oui. Ils aimeraient bien pouvoir les déposer. Les déposer à la SACEM, comme si c'était une partition. Qu'est-ce que vous en pensez?
Comme une partition contemporaine, disons.
Oui.
Parce que il faut qu'il s'intitule compositeur de musique contemporaine, parce qu'en entrant, on entend des bruits dans la musique contemporaine aussi. Je peux en parler, j'en fais beaucoup. Et de temps en temps, il m'arrive de faire des bruits qu'on me demande avec mes flûtes. Des bruits que je n'oserais pas faire ici, mais pourquoi pas? On crée une ambiance. Mais à ce moment-là, elle est faite par un instrument acoustique. Et elle était écrite par, ou pensée en tout cas, par le compositeur. Alors, donc là, on arrive dans un domaine, si le bruiteur lui-même fait une tasse, casser une tasse ou ça, évidemment, c'est un son de la nature. Après, avoir un statut de créateur pour ça, ça les regarde, mais enfin, vous comprenez?
Bon. Non, parce qu'on avait discuté avec Nicolas Becker, qui est quand même un des grands bruiteurs français, qui disait qu'il y a des moments où il y a des créations de bruits que l'on retrouve nulle part. Ça vient d'eux, c'est eux qui l'ont créé. Et ça serait pas mal, par moment, qu'ils puissent déposer.
Il faut qu'ils s'adressent à la SACEM et que statutairement, ils mettent ça à l'ordre du jour. Mais
oui, exactement.
Je n'ai pas d'idée, vous comprenez. Ça, c'est,
c'est la seule chose possible.
Oui, simplement, une section de bruit, oui, on peut en faire une petite symphonie, peut-être. Mais ça rejoint le compositeur dit contemporain, de l'esthétique contemporaine.
Et cela vous est arrivé, vous, de travailler avec un bruiteur?
Non, non, non. Non, parce que les occasions que j'ai eues de faire de la musique, je l'ai composée et je l'ai faite pour des vrais musiciens, enfin qui sont en musique vivante. Ils jouent, ils interprètent. Et après, dans les films, quand je découvre le film monté, je vous parlais du montage avant, là, les bruits ont été faits par les techniciens de ça. Donc il y a des effets spéciaux, etc. Bon, ça vient de tous les côtés, avec maintenant le son surround et tout ça. C'est... Donc, moi, je n'y ai pas participé. J'ai écrit la musique et après, au montage, il y a un mixage global. Donc, eux, ils amènent une part de création, évidemment, dans le film. Mais alors, il faut qu'ils trouvent un statut reconnu.
Alors, vous parlez justement de l'effet surround. Est-ce que vous pouvez imaginer composer différemment, justement, pour que les effets surround au niveau du cinéma soient pris en compte?
On peut imaginer, oui, et tout. Ça, non, mais moi, quand je pense maintenant, quand je vais au cinéma, j'entends ces effets. Et on est entouré de haut-parleurs, et c'est fabuleux. C'est même parfois un peu fort, même. Je l'avoue, je suis un peu assassiné par certains bruits et mélangés. C'est tout à fait... vous savez, un orchestrateur, c'est un rôle important dans une musique, surtout de film. L'orchestrateur, il fait rêver les compositions. C'est lui qui met en forme tout ça. Un orchestrateur, Nice de ce nom, c'est très facile. Au lieu de faire un mixage par l'ingénieur du son, on y pense sur la partition, on dit, là, les trombones, il faut qu'ils viennent à droite. Et puis les tubas juste derrière. Et les percussions qui arrivent devant, dans pleine gueule, etc. C'est tout à fait possible. Mais nous, ça fait longtemps. Un orchestrateur, il rêve tout le temps de faire venir les instruments de partout. Sauf que techniquement, ça n'a pas toujours été possible. Berlioz, il écrivait pour 2 ou 3 orchestres. Il mettait les musiciens un peu partout. Dans les stèles, dans les balcons, derrière. On n'a rien inventé, mais lui, il le faisait en direct. Même Wagner aussi. Mais peut-être d'autres, hein, bien sûr.
Charles Ives.
Ah oui,
deux fanfares qu'il a mis aux États-Unis, deux fanfares qu'il a mis, je sais pas, à une certaine distance quand même, et il fallait se mettre au milieu. Lui, il était monté dans un clocher et il dirigeait de là-haut, et il y avait deux fanfares pour utiliser l'espace, quoi.
Oui, puis Olivier Messiaen, eh bien, quand il a fait Saint-François d'Assise, son célèbre opéra, il y avait 2 orchestres sur les scènes d'opéra différents, et puis dans les scènes. Et c'était, quand on entend ça en direct, c'est fabuleux. Hein. Et ça, grâce à son éditeur François Leduc, qui lui a permis de réaliser ça, un rêve de plus. Donc l'effet, nous, ça nous est facile, mais ce n'est pas à nous de le réaliser. C'est au technicien qui fait ça, et lui qui a sa part de création là-dedans.
Alors, quelle est la demande actuellement du public au niveau des musiques de films? Est-ce qu'il y a une évolution depuis ces 15 dernières années?
Il y a un paradoxe quand même. Par moment, il y a des films qui ont un succès, et puis la musique est faite par une chanson, et par un groupe ou un chanteur, comme ça. Et après, il y a que cette chanson revient en boucle, et puis de temps en temps, il y a un peu de musique additionnelle. Donc, il n'y a plus du tout de musique originale écrite. On prend des petits bouts de quelque part, et puis la chanson qui revient et qui fait le succès des fois de cette musique. Et alors là, c'est moins élaboré. Alors, c'est vrai que ça coûte peut-être moins cher le budget, mais c'est des coûts. Et un coût heureux ou malheureux. Et le public, bon, l'accepte bien, puisque en principe, la chanson, si elle marche bien, elle est sympathique. Souvent, c'est un chanteur connu ou une chanteuse. Donc la chanson, elle fait un tube de plus. Et puis, après, je n'ai pas été interviewé le public, évidemment, je ne vais pas dans tous les films, malheureusement, mais je ne sais pas la réaction du public, mais après tout, le public est très large d'esprit. Hein.
Justement, on voit actuellement à la télévision, non plus dans les musiques de films, cinéma, mais à la télévision, où l'on prend de plus en plus ces fameuses chansons américaines ou françaises.
Oui, des reprises, évidemment,
des
de
reprises,
tubes.
Des reprises, la musique en tant que composée pour ces fictions disparaît complètement. Ça, on le voit au niveau de la télévision française.
Mais aussi en publicité. Vous avez vu que ce phénomène de la publicité, qui est présent partout, ça, c'est... Et on prend souvent ou des tubes classiques, enfin des tubes, des grands publics, disons, ou des grands thèmes aussi bien américains ou qui ont fait déjà le tour du monde, et même depuis 40 ans. J'ai eu un exemple, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu une publicité pour une voiture, une automobile, pardon, et on entendait... avec un genre de synthétiseur, mais exactement la partition du deuxième mouvement du... Joaquin Rodrigo, d'un concerto d'Aranjuez. Et là, j'ai dit, mais c'est monstrueux, c'est quand même de faire ça pareillement. Bon, qu'on prenne le solo de cor anglais, et puis qu'on fasse là, et puis l'effet sera formidable. Publicité, on prend les thèmes universels qui ont frappé l'esprit, qui continuent de le frapper pendant des siècles, pour en vendre un produit, une lessive ou autre chose. Donc, je vous dis ça parce que je sais maintenant qu'il y a un procès terrible qui se fait par les éditeurs, avec cette marque automobile. Mais c'est vrai que les gens prennent les thèmes principaux de la musique, c'est pour ça que c'est très fort. Et je crois que c'est un des arts le plus facilement assimilable en plus, qu'on entend partout, qu'on voit partout, et très populaire en même temps. Et que pensez-vous, à moi de poser vos questions, que pensez-vous des DVD, des films qu'on donne dans un paquet de lessives ou dans une revue littéraire, un abonnement et on donne un disque et un DVD, par exemple?
Eh bien, je ne parlerai pas au niveau littéraire, je parlerai au niveau de la musique. Mmh. Il y a certaines revues musicales qui donnent des DVD avec des morceaux de disques qui sortent. Je sais que moi, cela m'a permis de découvrir des groupes et des gens, oui, des compositeurs que je ne connaissais pas.
Mais là, vous parlez, c'est un système de promotion.
Oui.
Ils faisaient la promotion d'une œuvre. Ça, c'est bien. Non, mais dans un paquet de lessives, on vous donne le disque dedans, le film qui a 50 ans. Alors, c'est pratique. Quelqu'un va dire, moi, j'achète la lessive et puis je ne connaissais pas le film. C'est bien. Mais d'un côté, c'est quand même, en tout cas, nous, artistes, c'est dénaturer le produit artistique. Encore, je ne devrais même pas dire le produit, l'œuvre artistique. Je trouve que c'est quand même dégradant. Qu'on ne le vende pas très cher, pour que ce soit accessible à n'importe qui, parce que c'est quand même une œuvre, mais de le donner dans le paquet de lessives...
Le but, ce n'est pas de le faire connaître
Le but, c'est de vendre la lessive, et qui n'est pas toujours la bonne. Le film est peut-être bon, mais pas la lessive. C'est ça qui est écœurant. À la fin, si tout le monde réfléchit un peu plus, là, je m'égare, mais...
pas tellement. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit.
C'est vrai qu'on voit très peu de tableaux qui sont vendus, qui sont donnés les barils de lessive.
On ne donne pas un livre.
J'attends toujours les estampes.
On ne donne pas de livre.
Non, on ne donne pas de livre, c'est vrai.
Et on pourrait faire connaître les bons livres aussi, mais il y a d'autres moyens de les faire connaître.
Non, mais c'est basé sur le fait que, comme disait quelqu'un, il n'y a pas de paupières pour les oreilles. Donc,
oui, voilà.
La musique, elle pénètre tout de
c'est
suite.
C'est très facile, c'est accessible, oui, mais c'est dommage.
Vous savez que je préfère qu'on donne la musique comme ça que les bouquins qui partent au pilon.
Oui.
Je veux dire, il y a quand même des millions de...
Il y a des disques aussi qui partent au pilon, malheureusement. Hein.
Malheureusement.
Ah oui.
Malheureusement.
Ah oui, non, c'est...
Parce que ce pilon, quand même, est assez épouvantable.
Oh là là,
quand on voit le prix,
oui.
Il y a quelque chose qui ne va plus au niveau de la société de consommation. Alors, quel est votre rêve, maintenant
Je rêve tout le temps, mais comme tous les artistes, je rêve de pouvoir continuer plus longtemps d'écrire et de jouer. J'ai un certain âge, mais j'ai encore la bonne santé pour me produire en tant que flûtiste. Aussi bien musique classique que contemporaine ou brésilienne, avec mes amis comme Alex, ici présent, et, ou Gismonti. Et donc, je pars au mois de février et mars en Inde avec les solistes français, faire une tournée et on va enfin jouer avec une grande sommité, c'est le violoniste indien, c'est le docteur L. Subramaniam, et pour qui j'écris une œuvre pour deux violons, flûte, orchestre de chambre, oui, 12 cordes, et pour les percussions de Madras. C'est-à-dire qu'ils sont 5 percussionnistes indiens. Cette musique est déjà composée depuis un an, mais on n'a pas eu une question de calendrier. Donc ça, c'est un rêve qui va se réaliser, un de plus.
Une fois que ça sera fait, il faudrait venir nous voir, nous en parler.
Oui, ah ben, je reviens.
Moi, je trouve ça, je ne savais pas.
Ah non,
je l'apprends. Je trouve ça assez merveilleux.
Je reviendrai, mais on fera le disque là-bas, à Madras. Mm-hmm. Les studios sont déjà prêts. Et puis bon, comme j'y vais souvent, j'y vais deux fois par an là-bas. Je joue avec le musicien indien. Et j'amène cette formation, les solistes français. 12 cordes. Donc on peut écrire et jouer. On joue aussi Vivaldi et Mozart là-bas, hein,
oui.
Bien sûr. Parce qu'ils sont friands de ça. D'ailleurs, Subramaniam joue le double de Bach dans le concert. Avec Bernard Vachel, l'autre soliste au violon. Et il joue le double de Bach avec les cordes. Parce qu'il aime beaucoup cette musique aussi. Mm-hmm. Mais je préfère jouer la musique fusion avec lui, moi. Question de goût.
Enfin, comme quoi, la musique, c'est vraiment universel.
Bien sûr.
C'est un lieu commun de le dire, mais bon, il faut quand même le rappeler de plus en plus souvent, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est universel. Par exemple, le musicien hindou qui joue du Bach, quoi.
C'est fabuleux.
Fabuleux.
Alors, en parlant de rêve, j'ai demandé à Alex Bonavita de venir me rejoindre en fin d'émission, parce que on est tous fous hein, dans ce métier, enfin les artistes en général, pas que les musiciens. Et lui aussi, c'est un beau fou. Il a conçu une méthode pour apprendre la musique, mais sans apprendre comme avant.
Comme,
c'est-à-dire
comme
que ça. Alors oui, je un jour, j'espère que vous l'inviterez.
Mais j'espère bien.
Pour qu'il vous explique cette nouvelle méthode. À mon avis, elle est révolutionnaire. Il viendra de Montpellier, parce qu'avec son petit accent, il est là-bas.
Oui, je suis à Montpellier en ce moment. Mais enfin, j'ai vécu longtemps à Paris. Et donc, je prends le métro. Je suis tout à fait civilisé quand je vis à Paris.
Il viendra vous en parler, parce que je crois que c'est un grand projet.
Oui.
Avec plaisir.
C'est un rêve, c'est encore un rêve.
Voilà, vous parliez des rêves.
Et voilà. Et c'est vrai que c'est une méthode pour les gens qui ne veulent pas ou qui ne connaissent pas le solfège, ou bien ça peut être un pré-apprentissage du solfège aussi. Et surtout, c'est une méthode ludo-éducative, voilà, en fait.
D'accord.
Donc, on en a besoin, je crois.
Oui.
Vous savez,
en ce moment, les jeux, c'est tellement... Bon, c'est le ludo-éducatif, c'est vraiment dans le courant des choses. C'est une méthode ludo-éducative, surtout... destiné à soutenir les gens qui apprennent à improviser et à développer l'improvisation. Voilà.
Ça fera des futurs mélomanes pour les musiques de films.
C'est
important, de l'inédit et de l'original. Et comme ça, le compositeur n'aura plus à écrire et dira 3, 4, allez-y. Enfin, je plaisante là.
Bon, très bien, merci beaucoup.
Alors à très bientôt et puis encore bonne année à tous vos éditeurs et qu'aillent vite voir les musiques de films.
Bon, merci beaucoup
de
Bernard.
Rien, merci
Bistrette.
Marion.
Merci Alex. Beaucoup Alex Bonavita d'être venu.
C'est moi qui vous remercie.
Eh bien, c'était Autre Radio, Autre Culture. À très bientôt. Au revoir. Autre radio, autre culture.